Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a aujourd'hui Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Ravi de vous retrouver, bonsoir.
Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Alors, dans cette émission, nous allons entendre Anna, qui représente l'association Greenpeace Angers. On ne les avait jamais encore invités. Et puis, nous parlerons de l'actualité, bien sûr. Nous découvrirons la fin de l'aventure d'Amidou et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais d'abord, commençons par ton éditorial, Philippe.
Nous venons de publier notre rapport annuel sur le recours à la peine de mort dans le monde en 2021. Le bilan est inquiétant. Le nombre d'exécutions recensées a augmenté par rapport à 2020, ainsi que le nombre des condamnations à mort. Une hausse due à l'allègement des restrictions liées à la pandémie. En 2021, nous en avons enregistré au moins 579 dans 18 pays, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 2020.
Et quels sont ces pays qui pratiquent encore massivement les exécutions ?
L'Iran est le pays qui a le plus contribué à la hausse, avec au moins 314 morts recensés en 2021. À notre connaissance, le nombre de femmes exécutées a également augmenté, passant de 9 à 14, et les autorités iraniennes ont assassiné 3 personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Parallèlement à cela, en Arabie Saoudite, on est passé de 27 à 65, soit une hausse de 140%. Malheureusement, cette triste tendance se poursuit en 2022, avec l'exécution de 81 personnes en l'espace d'une seule journée en mars.
Mais cette hécatombe ne s'arrête pas là.
Des pics ont aussi été constatés, par exemple au Bangladesh, au moins 181 exécutions contre 113, en Inde 144 contre 77 et au Pakistan au moins 129 contre 49. Le Bélarus au moins une, le Japon 3, les Émirats Arabes Unis au moins une, ont quant à eux procédé à des exécutions en 2021, alors qu'ils s'en étaient abstenus en 2020.
Mais est-ce qu'on a accès à toutes les informations ?
Hélas, non. Comme les années précédentes, les totaux mondiaux enregistrés ne comprennent pas les milliers de personnes qui ont été condamnées à mort ou exécutées en Chine, ni les nombreuses exécutions qui ont probablement eu lieu en Corée du Nord et au Vietnam.
La peine de mort est souvent un instrument de répression étatique contre des minorités et des opposants au régime en place.
Au Myanmar, les généraux ont transféré à des tribunaux militaires le pouvoir de juger des personnes civiles dans le cadre de procédures sommaires et sans possibilité de faire appel. Près de 90 personnes ont ainsi été condamnées à mort de façon arbitraire, dans plusieurs cas en leur absence. Les autorités égyptiennes ont aussi continué de recourir à la torture et à des exécutions collectives, souvent à l'issue de procès inéquitables devant les cours de sûreté de l'État.
Et il n'y a pas de signaux encourageants malgré tout ?
Si, des résultats positifs ont été constatés pendant toute l'année 2021. Le nombre total d'exécutions recensées représente le deuxième total mondial le plus faible après l'année 2020. En Sierra Leone, un projet de loi visant à abolir la peine de mort pour tous les crimes a été adopté à l'unanimité. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a engagé une consultation nationale qui a abouti à l'adoption en janvier 2022 d'un projet loi sur l'abolition.
Et aux États-Unis, alors, quelle est la situation ?
La Virginie est devenue le 23e État abolitionniste des États-Unis, le premier dans le sud du pays, et ce pour la troisième année consécutive, l'Ohio a différé ou suspendu toutes les exécutions prévues. L'administration Biden a instauré en juillet un moratoire provisoire sur les exécutions fédérales. Le nombre d'exécutions recensées aux États-Unis en 2021 n'a jamais été aussi faible depuis 88.
Mais un monde débarrassé des homicides cautionnés par les pouvoirs publics est-il envisageable ? Mais
oui, il est indispensable de continuer à sensibiliser les personnes autour de ce grand sujet, grâce notamment à des activités d'éducation aux droits humains. La peine de mort viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le droit à ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est la négation absolue des droits humains.
Oui, merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et nous allons maintenant écouter Anna de l'association Greenpeace Angers. Cette interview a été pré-enregistrée samedi dernier. Anna, merci d'être venue jusque chez moi pour cette interview.
Merci à toi pour l'invitation.
Donc tu es là pour nous parler de ton association qui s'appelle Greenpeace, hein, qui est très connu et peut-être que peu de gens savent qu'il y a un Greenpeace à Angers.
Oui, tout à fait. En fait, Greenpeace France a des antennes locales et notamment une à Angers qui est faite avec de nombreux militants et militantes qui œuvrent à faire suivre les campagnes nationales au niveau local et aussi mener des luttes locales.
Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les grandes missions de Greenpeace ?
Bah, Greenpeace a été initialement en France sur les luttes au niveau de l'océan, notamment la chasse contre la chasse des mammifères marins. Et puis ensuite, il y avait aussi comme deuxième axe de lutte le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire. Donc bien sûr, les océans et le nucléaire, ce sont deux campagnes qu'on retrouve encore beaucoup chez Greenpeace aujourd'hui. Mais on a aussi des campagnes plus larges sur le climat, sur l'agriculture, sur la forêt, notamment préserver les forêts primaires. Des campagnes qui vont regrouper en fait tout ce qui concerne l'environnement et on n'exclut jamais le social de ces campagnes.
Alors de façon plus précise, sur Angers, vous êtes à peu près combien de bénévoles ?
Alors ça dépend si on entend des personnes qui ont peu de temps mais qui viennent quand même en consacrer un petit peu à Greenpeace ou si on parle des personnes qui vont être quand même beaucoup plus présentes. Actuellement, en personnes très présentes, on va être une dizaine. Et puis en personnes qui accordent de leur temps généreusement mais qui en manquent parfois un petit peu, on va être autour d'une quarantaine, je pense, mais c'est très variable dans le temps. Et puis, chacun a sa vie, donc ça peut évoluer.
Vous faites des réunions souvent à Angers ?
Tout à fait. Chaque mois, nous avons une réunion mensuelle qui se passe le deuxième jeudi de chaque mois. Mmh. Et nous faisons aussi des réunions en fonction des campagnes. S'il y a, par exemple, des mobilisations prévues, il y aura des réunions spécifiques. Et puis, nous faisons aussi des réunions off. C'est-à-dire, on essaye aussi de créer des moments de convivialité. Donc, ça sera des moments un peu plus détentes autour, par exemple, de bricolage ou alors carrément rien à voir avec Greenpeace, juste d'essayer d'apprendre à se connaître autour d'un jeu.
C'est sympa, ça se fait toujours au même endroit ?
Non, c'est souvent l'initiative de l'un ou de l'autre et en fonction des disponibilités de chacun, du temps, la météo fait beaucoup hein, sur les lieux où on va se retrouver. Mais voilà, l'idée c'est de créer une émulation humaine pour qu'on soit plus mobilisé que jamais.
C'est une chouette idée. Les réunions, ça se passe où ?
Alors par contre, les réunions, ça se passe en général au même endroit, c'est à l'espace Frédéric Mistral, dans la Roseraie. Et donc c'est à 19h le deuxième jeudi du mois, sauf exception. Voilà.
Et alors, en local, est-ce qu'il y a des actions spécifiques pour vous, quoi ?
Alors, en local, on va souvent être en accompagnement, en pièces rapportées, mais pas que.
Active, quand même.
Active, très active. Bien sûr, on est toujours là pour faire bouger les choses, mais on va aider d'autres associations dans leur lutte locale parce que ça nous tient à cœur et que ça tient à cœur de Greenpeace. Donc, notamment, on va se retrouver sur la lutte contre l'artificialisation des sols de zones humides lors du plan d'urbanisation d'Angers-Loire Métropole. Donc c'est des actions qui ont été menées par des associations locales, par Justice Climatique Angers et par Greenpeace Angers. Et puis on a aussi été très présents dans la lutte contre l'agrandissement de la A11, qui donc était un projet qui datait d'une vingtaine d'années et qui même plus et qui n'avait pas du tout lieu d'être. Et on a donc soutenu cette campagne pour empêcher son agrandissement.
C'est lié au pont qui passe par-dessus la Maine là, lorsqu'on passe Parc Balzac par là.
Exactement. Exactement, il était prévu un agrandissement de cette autoroute, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème d'affluence, que la zone où les travaux ont été faits était une zone humide, encore une fois. Donc beaucoup de raisons faisaient que ce projet n'avait pas lieu d'être, et sans compter la pénibilité pour les riverains, qui est quand même aussi pas négligeable. Donc il y avait un collectif citoyen qui s'était créé pour demander au moins un moratoire sur ce projet, un débat public. Et ensuite, ils nous ont demandé à Greenpeace Angers si on souhaitait se joindre à cette lutte locale. Et donc, bien évidemment, nous, ça nous tenait à cœur de les aider dans ce projet. Et donc, voilà, aujourd'hui, la décision n'est pas encore actée, je crois. Alors, ce n'est pas moi qui m'occupe du sujet, mais normalement, ça devrait être clair. Voilà.
Ah, c'est super. Les zones humides, en fait, c'est quoi ? Ce sont des zones qui sont régulièrement inondées par les crues de la Maine ou de la Loire ?
Exactement. En fait, on est dans une zone où on a ce qu'on appelle les basses vallées angevines. Donc, ce sont des zones où on a des crues. Les zones vont être inondées. Donc, ça permet un écosystème bien particulier avec des espèces végétales et des espèces animales qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'elles sont normalement censées être protégées, du moins une partie. Mais vu qu'on cherche toujours à grignoter un petit peu plus, ce sont des zones qui ne sont pas ou peu urbanisées et qui donnaient sûrement envie d'être exploitées par l'homme. Mais malheureusement, ça serait un réel désastre écologique. Donc aujourd'hui, on a réussi à obtenir des maires et des élus locaux de réduire ce plan d'urbanisation. Donc de mémoire, c'était 52 hectares qui étaient prévus. On est passé à 17, mais 17, c'est encore beaucoup trop. Donc la lutte continue.
Voilà. D'accord. Donc voilà, une fois de plus, les promoteurs, avec leurs grandes envies, viennent attaquer. Mais je croyais que les basses vallées angevines, moi, étaient protégées, tout simplement. Mais je me faisais des idées, alors.
Bah, normalement, c'est censé être protégé, c'est vrai. Mais je pense que, vu que la protection est établie par les métropoles, si la métropole refuse... change d'avis, j'imagine que les choses tombent à l'eau. Après, je, en toute honnêteté, je ne suis pas la plus spécialiste du sujet. C'est aussi ça qui est intéressant au sein de Greenpeace, c'est qu'on apprend dans le groupe local différentes choses et on n'est pas obligé de tout savoir parce qu'on a des communitants, des co-bénévoles qui sont très actifs et compétents.
Les législatives sont également pour vous un temps de lutte ?
Oui, en effet, même si Greenpeace est apartisane, c'est-à-dire que ne va pas plébisciter un parti politique, la politique ne peut pas être enlevée du combat militant. Et donc aujourd'hui, ce sont les élections législatives qui nous mobilisent. C'est pour ça que nous avons parfois des militants qui sont sur les marchés pour tracter, afin d'encourager les jeunes et les moins jeunes à voter pour l'écologie, c'est-à-dire à dire... à notre président Emmanuel Macron que la lutte écologique est une lutte indispensable et toujours indissociable de la lutte sociale.
Alors on s'est rencontrés à la marche des fiertés à la Pride de Danger, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors vous faisiez partie de la belle et magnifique marche.
Tout à fait, c'était un grand plaisir d'y être. On était heureux et heureuses de participer à cette marche qui a tout son sens pour nous au sein d'Angers et en général pour Greenpeace qui est toujours beaucoup lié aux marches des fiertés à travers le monde. Ça s'est peu fait en France, ça s'est même pas fait en France d'ailleurs, c'était la première fois, mais c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et ça fait partie des combats que Greenpeace mène parce que le social est un des indissociables de l'environnement et donc on cherche l'inclusion de tous et toutes, quels qu'ils soient.
Et vous participez aussi à d'autres, je crois au 1er mai, vous étiez également dans le défilé ?
Exactement, toujours parce que les droits sociaux ne sont pas incompatibles avec l'environnement et qu'au contraire, ils doivent faire partie de la lutte. Nous avons trouvé important d'être là lors de la marche du 1er mai. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver lors des marches en général pour les luttes locales, pour les luttes plus générales. On ne fait pas que ça, marcher, mais c'est aussi un bon moyen de montrer qu'une grosse association comme Greenpeace, même au niveau local, se mobilise.
Et je crois que votre prochain événement important, c'est une sorte d'assemblée peut-être générale à la rentrée pour accueillir, on peut dire ça comme ça ?
En fait, il s'agit de réunions d'information et d'accueil. On en fait régulièrement tout au long de l'année, mais c'est vrai que l'été n'est pas très propice à ce genre d'événement. Donc on met un petit peu en pause et on espère pouvoir avoir des gens motivés qui souhaiteront s'y rendre en septembre. On n'a pas encore fixé la date, mais si vous souhaitez vous y inscrire, il y a un formulaire sur le site de Greenpeace. Donc c'est greenpeace.fr. Vous cliquez sur l'onglet « Agir ». Devenir bénévole et ensuite vous choisissez votre groupe local, que ce soit à Angers ou ailleurs, et vous avez un petit formulaire pour nous rejoindre.
Et on peut vous contacter autrement, peut-être ?
Bien sûr, nous avons un Facebook, donc vous pouvez nous envoyer un message sur Facebook. Nous avons un Instagram, donc de même, il y a des messages privés possibles sur Instagram. Et puis enfin, nous avons un mail qui est GL, donc G comme Gaston et L comme local. .angers@greenpeace.fr tout simplement.
Mais pour Instagram ou Facebook, c'est aussi le groupe local qui a sa page ?
Tout à fait. D'accord. On n'est pas hyper présent sur les réseaux sociaux parce que c'est une de nos petites faiblesses, mais si des personnes motivées par les réseaux sociaux et qui ont envie d'agir avec le groupe local souhaitent s'y intéresser, qu'elles nous rejoignent. Voilà.
Merci beaucoup, Anna.
Merci.
Et c'est le moment de notre pause musicale.
Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort. On l'enterre sur TF1, de clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant. Deux soldats de moins pour l'Occident. 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin,
menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger.
Ce matin,
rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats. Font des glaces en Alaska et gros chaleur en Angola.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent. On s'aime ce matin. Ce matin, pendaison de Saddam. L'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent. On s'aime. Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt. Avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour. Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours. On n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent. On s'aime.
Et vous venez d'écouter Toi et moi du groupe Trio qu'on aime beaucoup. Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et c'est le moment des actualités des droits humains.
Oui, rappelez-vous, le 19 juin 2021, en Bretagne, lors d'une opération menée pour interdire une rave party, Alban, 22 ans, a eu la main arrachée par une grenade tirée par des gendarmes. En moins de 6 heures, la police a fait usage de plus de 1700 grenades lacrymogènes, de désencerclement et des GM2L. Particulièrement dangereuses car mutilantes. Tout cela en pleine nuit, alors même qu'il manquait de visibilité. Plusieurs d'entre eux, au cours de leur audition, l'ont attesté. Eh bien, malgré l'absence flagrante de prise en charge d'Alban, faute d'un dispositif sanitaire coordonné, le procureur de la République de Rennes a classé cette affaire sans suite, sans avoir auditionné le préfet, ni même les responsables du centre opérationnel. Même l'association TechnoPlus, reconnue par le ministère de la Santé, seule sur le terrain des affrontements, à avoir aidé les toughers blessés durant la nuit.
Plusieurs associations, Moitana for Human Rights, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme, et Sherpa, avec le soutien de notre organisation, ont déposé une plainte pénale devant le tribunal judiciaire de Paris contre les entreprises d'armement françaises Thales, Dassault Aviation et MBDA. Ces sociétés devront répondre de leur possible complicité dans les crimes de guerre commis au Yémen, crimes qui pourraient être rendus possibles du fait d'exportations d'armes réalisées par ces entreprises vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.
C'est un grand pas en avant, une promesse du gouvernement espagnol qui se concrétise. Les députés approuvent à la majorité absolue une loi sur la liberté sexuelle visant à renforcer la lutte contre le viol. Désormais, tout acte sexuel non consenti de manière claire et libre sera considéré comme un viol aux yeux de la justice. En clair, seul le consentement explicite sera obligatoire. Le projet de loi va maintenant passer au Sénat. Jusqu'à maintenant, la justice réclamait à la victime de démontrer comment elle avait refusé et résisté à la relation sexuelle. La loi dite « Seul le oui est un oui » est un projet législatif du ministère de l'Égalité dirigé par la ministre de gauche Irène Montero du parti Podemos. Ainsi, tout rapport sexuel sans consentement sera une agression, qu'il y ait ou non violence ou intimidation.
Selon Amnesty, l'Égypte compte plus de 60 000 détenus d'opinion,
dont des militants pacifiques. Pardon Sophie, je reprends ta place, ton rôle, des défenseurs des droits humains, des avocats, des universitaires et des journalistes détenus uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. C'est lors du repas de rupture du jeûne que le président égyptien Al-Sisi promettait des ouvertures. Il avait annoncé des libérations de prisonniers politiques et le lancement d'un dialogue national avec toutes les forces du pays, sans exception. Et bien depuis, les médias se sont interrogés sur les motivations du régime en se demandant si l'opposition avait intérêt à répondre favorablement à ces ouvertures. Certes, le régime a réactivé une commission d'amnestie et procédé à des libérations de prisonniers, mais hélas, au compte-gouttes. On n'en compte maintenant que 6.
Et maintenant, un triste anniversaire, celui d'un des moments les plus emblématiques de la lutte pour la liberté dans l'histoire récente. Un homme seul, tenant un sac plastique dans chaque main, qui se dresse face à une file de puissants chars près de la monumentale place Tiananmen à Pékin. C'était le 4 juin 1989. Les chars chinois réprimaient dans le sang le mouvement en faveur de la démocratie. La veille, des centaines, si ce n'est des milliers de personnes avaient été tuées lorsque l'armée avait ouvert le feu sur les étudiants et les travailleurs qui demandaient depuis plusieurs semaines des réformes politiques. Les chiffres exacts restent inconnus, car même 30 ans après les faits, les autorités chinoises continuent de tout faire pour empêcher les gens de poser des questions sur ces événements ou même d'en parler.
Sauf à Hong Kong, je crois, où chaque année, depuis 30 ans, on commémorait cette journée.
Effectivement, tous les 4 juin, depuis 1990, des dizaines et parfois des centaines de milliers de personnes se réunissaient pour une veillée à la bougie dans le parc Victoria à Hong Kong pour rendre hommage aux personnes tuées. En 2020 et 2021, cette veillée avait été interdite en raison de la pandémie. Mais en septembre 2021, après avoir subi une pression de plus en plus forte depuis l'adoption à Hong Kong de la loi relative à la sécurité nationale, l'association qui organisait cet événement, la HK Alliance, a annoncé sa décision de se dissoudre. Cette année, les militants chinois n'ont plus la possibilité de rendre hommage aux personnes tuées en 1989.
Le voyage de la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, au Xinjiang en Chine, a suscité l'indignation des ONG. Tandis qu'un rapport détaillé de ses équipes sur la répression dans la région n'est toujours pas publié, une occasion manquée de mettre un coup de projecteur salutaire sur les droits humains en Chine. Ainsi, au Xinjiang, après avoir visité une prison et un ancien camp d'internement réservé aux membres des minorités musulmanes, elle a mollement rappelé au régime de Pékin de remplir ses obligations en conformité avec les lois de protection des droits humains.
Et nous allons découvrir la dernière chronique de Céline, nous contant l'épopée d'Amidou, un jeune migrant ivoirien. Nous l'avions laissé en Europe, et bien voici la fin de son histoire.
Bonsoir Valérie. Voilà, nous sommes arrivés au quatrième épisode de l'histoire d'Amidou, que nous avons laissé à son arrivée sur notre continent. Amidou est entré en Europe par la route espagnole. Mais plutôt que de t'expliquer son parcours jusqu'à Angers, j'aimerais qu'on rebrousse le chemin. Aujourd'hui, Amidou vient de terminer les épreuves de son CAP qu'il aura très probablement, parce qu'il a travaillé sérieusement pour l'obtenir. Il vit dans une famille qui a ouvert sa maison le week-end dans un premier temps, puis à temps complet. Il est un peu devenu le fils aîné, jouant avec les plus jeunes, étant proche et complice avec la maman. C'est elle qui, après une demande d'hébergement d'urgence sur un réseau d'aide aux mineurs non accompagnés, est venue nous rencontrer au lycée. J'ai rencontré Amidou en salle des profs à l'automne 2021, à un moment de sa vie où tout pouvait s'écrouler. Parce que c'est bien en France, après les obstacles, les dangers, les risques du voyage, que sa vie a failli basculer. À l'automne 2021, en pleine scolarité, la préfecture décide qu'Amidou, majeur, ne peut plus être accompagné par l'aide sociale à l'enfance. Il se retrouve donc sans rien. Est-ce que cela signifie le retour dans la survie ? Parce que entre l'Espagne et la France, il s'agit de survie. Pour se nourrir, même s'il y a eu des associations dans les gares, pour trouver où dormir à Paris notamment, avant de rencontrer un grand qui explique qu'il faut aller à Angers. La survie, c'est les premiers jours à la gare pour trouver la personne qui va répondre aux questions, qui va vous accompagner jusqu'au secours catholique qui déclenchera la procédure de prise en charge. Alors, quand Amidou arrive avec son sourire en Europe, est-ce qu'il s'imaginait qu'à l'automne 2021, il risquait de tout perdre parce que les préfets n'appliquent pas la loi de la même façon et que quand on arrive sur le territoire français, on est encore dans la survie. Valérie, dans mon lycée, il y a Amidou. Mais il y a aussi Dioukounda, Fahad, Ramin, Kalou, Jamal, Dayan, Yannick, Abdella. Ils ont leur histoire singulière et ils sont les représentants de notre merveilleuse humanité.
Oh, une chronique bouleversante. Merci beaucoup à Céline et à Amidou. Mmh. Très très chouette. On va essayer de les inviter pour une prochaine émission. Allez, bah, je crois que c'est le temps de notre agenda militant et culturel, les amis.
Oui, l'association Al-Kamandjati propose deux soirées. Le 15 juin à 20h, la projection du film Welcome to Palestine à la Boussinière à Gênes avec une entrée gratuite. Et le 16 juin à 19h à l'église Notre-Dame de Cunot, concert de 50 enfants et jeunes de Bethléem et Hébron en Palestine. Pour réserver, allez sur le site alkamandjati.org.
Le samedi 18 juin à 17h à l'atelier de la cité, c'est Place Kennedy près du château. Une comédienne déclamera des poèmes proposés par le grand public sur le thème de la paix et on en a bien besoin.
Dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés, le lundi 20 juin à 20h au 400 coups, vous sera proposé le film Flee. Cette soirée sera présentée par Louis Mathieu de Cinéma Parlant en présence d'Émilie Lenin, juriste spécialisée en droit des étrangers et droit d'asile. Ce documentaire d'animation relate l'histoire vraie d'Amine, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu'il n'était qu'un enfant. 30 ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté. À ne pas manquer.
Eh bien, il est déjà presque 19h30. C'est le temps de conclure cette émission et de remercier Anna de l'association Greenpeace Angers pour sa participation à l'émission. N'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook sur la page de amnesty.angers. On se retrouve bien évidemment à la rentrée. Passez un très bel été. À bientôt.
Et bonne soirée.
Au revoir.